Bonjour, c'est Janice Esto. Retrouvez-moi chaque vendredi à partir de 13h sur Mayuri Campus, dont les experts Mayuri. Un rendez-vous sur les grandes questions de société qui nous, qui vous concernent en Guyane. L'éducation, le pass sanitaire, l'immigration, près d'une heure de débat sans langue de bois, en vidéo sur les réseaux sociaux et en radio sur Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Je compte sur vous. À bientôt. Même heure, même mieux, puisque le salon de l'immobilier vient à nous aujourd'hui et on passe au vert comme la Guyane cet après-midi, enfin, avec nos experts du jour, Cécilia Javelot, formatrice à Aqua, et Laurent Chameau, architecte du cabinet Amarante sans H, architecture. Pourquoi devrait-on nous tourner vers l'éco-construction en Guyane? C'est notre sujet du jour et donc nos experts vont nous apporter la réponse. Bienvenue.
Merci.
Merci.
Et je vous remercie. Et tout de suite, nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez répondre à nos auditeurs et un peu leur expliquer qu'est-ce que l'éco-construction? Qui commence?
Je t'en prie.
Alors l'éco-construction, c'est une démarche qui est issue tout d'abord du bon sens, qui est de se dire on va essayer de construire déjà avec les matériaux qui sont les plus proches de chez nous, qui sont les plus proches de notre territoire, qui ont le moins de déplacements nécessaires pour la construction et qui vont être le plus adaptés au climat dans lequel on vit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éco-construire, c'est aussi construire avec le climat, non pas uniquement pour la résistance des matériaux vis-à-vis du climat, mais également par rapport au confort thermique qu'on va ressentir au sein du bâtiment que l'on est censé habiter. Évidemment, l'éco-construction doit prendre en compte déjà ces deux grands paramètres qui sont le matériau et le confort thermique. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, à l'heure du changement climatique et de problématiques mondiales très importantes, il est de notre devoir à tous de faire un effort, de changer nos modes de fonctionnement et nos comportements. Et la construction étant aujourd'hui génératrice d'entre 30 et 35% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il faut évidemment faire le maximum pour que ce secteur-là soit plus vertueux qu'il ne l'était jusqu'à maintenant.
La réponse était très très complète. Merci beaucoup Laurent, j'ai peu de choses à rajouter. Mais en un sens, ce sera ça. Pour moi, l'éco-construction, ça va être d'essayer de construire durable, avec bien évidemment les ressources locales, et en s'adaptant aux conditions climatiques, mais vraiment dans un souci de limiter au maximum le bilan carbone du bâtiment. Et je pense que l'interview de ce soir va beaucoup parler du coût global, donc on va essayer de parler du coût des matériaux, de leur préparation, de leur mise en œuvre, mais il faut aussi penser à la vie du bâtiment et à sa fin de vie. Et c'est vraiment ça, tout ça qu'il faut prendre en compte quand on parle d'éco-construction.
Et justement, on en anticipe un petit peu la question suivante, donc, et on va répondre un petit peu au sujet qui nous réunit. Pourquoi devrait-on en Guyane prioriser l'éco-construction? Est-ce que c'est pour être au mieux et au plus proche de notre environnement, pour l'embrasser et un petit peu optimiser nos ressources, entre guillemets? Justement, on va en parler de nos ressources et justement du bois.
Alors, en Guyane, on a une chance extraordinaire qui est d'être au milieu de la plus grande forêt du monde, d'avoir la nature qui est extrêmement généreuse avec nous et qui nous offre des matériaux d'une qualité inégalée dans le reste du monde. Hein. Donc déjà, le fait d'être fier de ce que la Guyane peut nous offrir naturellement, c'est déjà une première chose et qui permet, en connaissant en particulier le bois guyanais, bien entendu, de le mettre en valeur, d'une part, de le mettre en place dans le bâtiment au bon endroit et avec la bonne essence. Et puis, évidemment, nous avons d'autres matériaux qui sont disponibles localement, dont la brique de terre compressée, qui maintenant fait l'objet de plusieurs unités de production, qu'elles soient artisanales ou industrielles.
On parle bien sûr de la brique de Guyane.
Bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose de très important. Cécilia peut...
Elle peut abonder.
Voilà.
Mais là, ce que j'aimerais développer aussi sur l'importance de développer ça en Guyane, c'est aussi de développer l'économie guyanaise, d'utiliser des filières locales. On développe vraiment, on donne du travail aux jeunes, on leur donne envie de se développer ici et sur la filière entière. Donc ça peut être sur le bois comme sur la terre. Et la montée en compétences des acteurs locaux est primordiale.
Ça, c'est vraiment... fondamental, c'est qu'aujourd'hui l'éco-construction, c'est du développement durable. Le développement durable, c'est à la fois de l'écologie, mais c'est aussi de l'économie et c'est du social. C'est-à-dire que ces trois pieds, et ces trois pieds permettent d'être bien stable. Si on en enlève un, on est bancal. Et dans le social, il y a le fait tout simplement de développer une économie endogène et qui ne soit plus une économie de comptoir. Aujourd'hui, la Guyane elle a besoin, elle l'a été. Il faut rappeler que historiquement, la Guyane était une terre d'exportation, une terre de production, et que depuis les années 30, on est, plutôt l'après-guerre, on est passé à une économie d'importation et une économie finalement de dépendance vis-à-vis du reste du monde et de la métropole en particulier. Le fait d'inverser cette donnée, de réinverser cette donnée, de revenir à quelque chose où on est capable de produire, que ce soit nos productions alimentaires, que ce soit nos productions de matériaux, que ce soit notre industrie, il faut qu'on sache produire ici, pour nos jeunes, pour nos enfants et pour tout simplement avoir un avenir pour eux.
Alors effectivement, on a un peu élargi le spectre et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de l'émission. Mais revenons un peu à chacun de vos domaines d'action. Dans quelle étape du processus intervenez-vous, chacun d'entre vous? On va peut-être commencer par Cécilia, notamment à quoi admettons que... l'un de nos auditeurs ou des internautes a un projet, comment intervenez-vous?
Donc au sein d'Aqua, nous sommes 5 salariés, on va intervenir à différentes étapes. Les premières, ce serait donc Florence, qui est notre conseillère faire et animatrice du centre de ressources, où elle va pouvoir, lorsqu'on lui amène un projet et des plans, donner des conseils déjà sur l'aspect bioclimatique du bâtiment. Donc voir vraiment comment l'intégrer au mieux dans l'espace dans lequel il va être conçu. Et on va parler après des équipements et de la performance énergétique du logement ou du bâtiment, du projet en règle générale. Après moi, j'interviens surtout, donc je fais des formations principalement auprès des professionnels, mais je vais pouvoir aussi du coup donner des conseils sur les matériaux, les mises en œuvre, et je fais aussi du coup des audits énergétiques pour voir qu'est-ce qui va pouvoir améliorer le logement. C'est ce qu'on va faire au sein d'Aqua. Après, du coup, elle est également, mais ce sera, on va le développer après par la suite, on est espace conseil faire, où là, on va parler de rénovation énergétique. Donc, si on a des travaux à faire dans la maison pour la rendre plus confortable et moins énergivore, on va pouvoir là aussi donner des conseils sur quels travaux sont possibles, préférables, conseillés, et quelles aides peuvent être apportées, les aides financières disponibles aujourd'hui.
Ok, donc ce n'est pas seulement sur des projets de construction, mais c'est aussi sur des projets de rénovation qui sont tout aussi importants.
Exactement. Ça peut passer par juste la mise en place de brasseurs d'air, de protection solaire. Enfin voilà, il y a tout un panel qui est disponible.
Ou l'isolation.
Exactement.
D'accord. Et l'accompagnement, effectivement, aussi sur les dispositifs qui existent, parce qu'il y a encore beaucoup de Guyanais, beaucoup de consommateurs ou de porteurs de projets qui ignorent les dispositifs existants. Laurent?
Eh bien, c'est une démarche un peu particulière, puisque bien sûr, on est professionnel de la construction et nous sommes à divers stades de taille de projet, puisqu'on va travailler, nous, à l'agence, parfois pour des maisons individuelles, même si c'est de plus en plus rare, puisque... on a une agence qui a une certaine importance, donc on va travailler plutôt sur des gros projets, mais on continue de temps en temps à faire une ou deux maisons qui nous permettent, nous, de nous raccrocher à ce qui est l'essence même de la construction, qui commence par le logement individuel ou le logement dans un appartement, des choses comme ça. Et puis évidemment, nous allons construire jusqu'à des groupes scolaires, lycées, etc. Donc c'est très intéressant parce que notre profession, elle est finalement relativement peu connue. Elle a un peu une image d'épinal, mais les gens ne savent pas toujours à quoi sert un architecte. Un architecte, c'est d'abord de la conception. C'est pas que des plans, bien sûr. Hein. C'est de la conception. Par exemple pour le bioclimatisme, évidemment, l'orientation du bâtiment par rapport au vent. Si on fait un bâtiment tertiaire qui est demandé, climatisé, il va falloir l'orienter totalement différemment d'un bâtiment ventilé naturellement. Il va même être orienté à 90 degrés par rapport à un bâtiment ventilé naturellement. Donc le positionnement sur les terrains est très important. L'effet de site, le travail par rapport à une colline, par rapport à un lieu, par rapport à une végétation, tout ça va rentrer en compte, en ligne de compte, dans la conception avant de commencer à construire, avant de commencer à dessiner, bien sûr. Et une fois qu'on a pris tous ces éléments du site en compte, on va évidemment parler matériaux, parler coûts, parler espace, parler programme, et essayer d'adapter au mieux le bâtiment que nous allons concevoir pour notre client, au mieux de ses besoins pour qu'il soit bien dedans après, puisque quand on construit un bâtiment, nous en sommes un peu responsables pendant plus d'une centaine d'années, puisque c'est la moyenne de vie d'un bâtiment est au-delà du siècle. Donc évidemment, on a une responsabilité très importante lorsqu'on construit sociétal, j'ai envie de dire. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi.
J'ai une question, elle est un petit peu poil à gratter. Bon, j'aime pas trop cette expression, mais bon, en toute transparence, est-ce que justement l'éco-construction est accessible? Est-ce qu'elle est abordable? Est-ce que, oui, elle est accessible à tous les budgets? Est-ce que, alors que ce soit pour un organisme, hein, demain, je viens de monter mon entreprise, je veux que mes bureaux soient bioclimatiques, est-ce que il faut quand même que j'ai un sacré budget, ou alors est-ce que je peux faire quand même avec relativement peu, ou est-ce que quand même il faut que...
On va se partager la réponse avec Cécilia. Commencer. Elle va parler. On va parler de coût global. On va démarrer là-dessus. Elle va parler de la suite, de la partie vie du bâtiment. Je vais parler de la partie construction. Donc, dans un premier temps, la première chose qu'il faut voir, c'est que quand on construit et qu'on a un budget, il ne faut pas regarder que le coût de construction. Il faut regarder comment on va établir notre budget sur un nombre d'années importante, parce que le coût d'un bâtiment est d'abord sur sa durée de vie et pas sur sa construction. On a notamment considéré que l'entretien d'un bâtiment, en gros, au bout de 10 ans, on a repayé le bâtiment, que ce soit de la consommation. Alors qu'est-ce que c'est l'entretien?
C'est ça.
Ça peut être la consommation énergétique, ça peut être effectivement, là aussi, il y a des désordres dus à un mauvais entretien, là on va payer encore plus cher. Donc vraiment, un entretien régulier et bien fait, c'est primordial pour avoir une durée de vie satisfaisante et surtout pour limiter, du coup, les coûts de réparation qui peuvent être engendrés. Pour ça, exemple vraiment très, très simple et tout le monde comprendra, mais si on laisse de la végétation s'installer au pied d'un poteau en bois, c'est un passage pour les termites. Si les termites s'installent...
Tout à fait, un fléau que l'on connaît très bien.
Exactement, un petit coup de débroussailleuse, ça coûte pas cher, c'est rapide, et ça nous évite beaucoup, beaucoup de désagréments.
Voilà. On peut prendre beaucoup d'exemples qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui vont peut-être bien comprendre les choses. On va dire qu'on construit un bâtiment, vous dites, vous êtes une entreprise, vous voulez faire votre bureau. Votre bureau, vous le faites, on va vous faire une grande baie vitrée en pleine façade ouest. Pendant 10 ans, vous allez payer 3 à 4 fois plus de factures de climatisation de votre bureau parce qu'il va falloir le rafraîchir, parce qu'il est insoutenable, parce que la façade exposée est en plein soleil couchant. À partir de 16h jusqu'à 18h, vous allez avoir le soleil qui va taper dans cette baie vitrée. L'effet de chaleur dégagé par l'effet de serre va vous rendre inconfortable, vous allez mettre la clim plus fort, vous serez quand même pas bien parce que d'un côté vous aurez chaud, de l'autre côté vous aurez froid. Et enfin, vous allez faire tourner cette clim qui va s'abîmer plus vite, qu'il va falloir changer plus vite et qui va consommer bien plus d'énergie, 40, 50, 60% régulièrement. Si vous concevez le même bureau en le tournant façade nord ou façade sud, en mettant moins de baies vitrées, en mettant une protection solaire, eh bien, vous allez immédiatement réduire le coût dit global de ce bâtiment. Donc vous ne pouvez pas, il ne faut surtout pas considérer que le coût d'un bâtiment, c'est que son coût d'investissement. Et deuxième chose, dans le cadre du coût d'investissement, le même bureau dont je viens de vous parler, il va coûter exactement le même prix si vous le mettez exposé ouest que si vous le mettez exposé nord. En revanche, son coût de fonctionnement ne sera pas du tout le même. Donc, sur ce petit exemple assez compréhensible de tous, on se rend compte qu'on va avoir des impacts importants dans la conception et l'intelligence qu'on va mettre dans la conception de ce bâtiment. Et cette intelligence-là, elle est gratuite, mais elle est nécessaire. Si vous dites, voilà, je veux ça pour un caprice, je veux une maison californienne en Guyane, sans des bords de toiture, avec un acrotère, pas de... Voilà. Et vous savez que ce bâtiment, il va falloir le repeindre en permanence, il va falloir le passer au Karcher, il va falloir le climatiser, il ne sera pas adapté au climat, et donc il va coûter très cher à tous les niveaux. C'est une sorte de passoire énergétique. Donc, il faut savoir s'adapter à notre climat, s'adapter, avoir l'intelligence du climat, parfois par l'observation des anciens, parfois par des nouvelles procédures qui sont plus adaptées à nos jours et à nos matériaux, mais c'est en permanence une petite remise en question et puis le fait de respecter quelques principes simples finalement, de bon sens. On revient au bon sens de tout
ça. C'est ça. Et de nos jours aussi, on le retrouve en métropole, et on espère que ça arrivera bientôt en Guyane ici, c'est la tendance de la frugalité et de la sobriété. Aujourd'hui, quand on construit, on peut utiliser des matériaux plus précieux, mais avec parcimonie, et du coup avoir quelque chose favoriser la ventilation naturelle, pas forcément tout cloisonné. Et là, on peut avoir un investissement moindre pour avoir un confort tout aussi, voire plus intéressant que si on avait tout fermé, tout en béton.
Donc vous arrivez, lorsque vous avez du public, même lorsque vous faites vos formations, à déconstruire un peu les clichés qu'il y a autour de l'éco-construction ?
C'est notre mission quotidienne.
le premier cliché, juste pour finir là-dessus, c'est effectivement ce que vous aviez annoncé au départ, c'est-à-dire qu'il y a un surcoût, ça coûte beaucoup plus cher. Alors ça, déjà la construction...
Oui, même au niveau des collectivités, ouais, ou même des bailleurs sociaux, je sais que c'est la... Tout c'est temps. La première préoccupation, ça coûte trop cher. Du coup, on a tendance, on va en parler,
à déshabiller le bâtiment, voilà. Enlever les bris de soleil, etc. Mais en fait, heureusement, il y a des réglementations qui sont arrivées et qui nous interdisent maintenant de faire n'importe quoi.
Il y a de nouvelles réglementations qui sortent et des cahiers des charges qui sont de plus en plus adaptés.
Alors, ils augmentent, oui, le coût de construction, mais le problème, c'est pas qu'ils augmentent le coût de construction, c'est de réglementation. C'est juste qu'ils empêchent de faire n'importe quoi qu'on faisait à une époque, notamment dans les années 80 et 90.
Oui, et on se retrouvait avec ce qu'on appelle les cages à poules.
Des cages à poules non isolées, souvent non isolées, exposées très fortement au soleil, avec des murs qui étaient très, très fermés du côté des façades d'aération. Tout ça parce que ça coûte moins cher de faire un mur que de faire une fenêtre, évidemment.
Tout ça fait.
Mais à un moment donné, il faut aussi respecter les gens et construire quelque chose où c'est vivable si on construit. Donc il faut qu'il y ait un garde-fou de la réglementation. Et ça, évidemment, c'est pas un surcoût pour moi. C'est pas un surcoût, c'est juste une nécessité de faire quelque chose qui est acceptable.
On reste toujours sur le prix, en fait, c'est toujours pour essayer de conscientiser, hein, parce qu'on sait que, par exemple, on va parler du bois, et surtout du bois de Guyane, il y a toujours beaucoup de personnes qui sont un petit peu scandalisées, hein, connaissant le prix du bois que nous-mêmes nous produisons, qui est plus élevé qu'on importe. Connaissant le prix de ce type de matériaux, comment pouvoir s'inscrire dans cette démarche qui est vertueuse pourtant et justement ne pas se retrouver avec un surcoût? Comment essayer de pallier ça? Est-ce que vous avez des astuces? Comment vous faites justement et pour ne pas tomber dans le tout béton?
Alors la première chose, c'est que il faut le savoir, il faut en être assez fier. Nous sommes probablement dans toute l'Amazonie le seul territoire amazonien où on coupe du bois de façon vraiment responsable. Ça, c'est important de le dire. J'étais moi-même en forêt avec l'Interprobois, l'interprofessionnel du bois, faire un abattage de deux angéliques et deux grignons il y a un mois de ça. Et j'ai pu voir effectivement la qualité du travail fait à la fois tant par les agents de l'ONF que par les scieurs locaux. Et ce travail-là, il est remarquable. On devrait beaucoup plus le mettre en valeur. Et il faudrait aussi que plus de jeunes aillent vers ces filières. Elles sont extrêmement valorisantes. Elles sont extrêmement intéressantes. Elles demandent un vrai savoir-faire et une connaissance. Et malheureusement, on est en manque de main-d'œuvre dans ces parcelles forestières. Et ça, je lance un appel parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant, en plus. C'est vraiment passionnant de voir un jeune angélique, de voir comment poussent les arbres, de voir comment on régénère la forêt. Donc la première chose, c'est qu'il faut quand même être fier de comment on cueille du bois en forêt. On peut dire qu'en Guyane, on ne fait pas de l'abattage, on cueille. C'est-à-dire qu'on va laisser en moyenne 5 tiges à l'hectare. Et ces 5 tiges, effectivement, elles se régénèrent immédiatement par le biais du chablis qui a été créé. Et que derrière, la forêt se régénère totalement naturellement sur un rythme qu'on estime entre 50 et 60 ans. Donc au bout de 60 ans, la forêt est revenue exactement comme on l'avait, comme au moment où on a coupé l'arbre. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut en être fier. Il ne faut pas toujours tirer sur nos qualités, quoi. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le bois est cher en Guyane pour les mêmes raisons, aussi pour les mêmes raisons. Évidemment, si vous achetez un bois de coupe rase du Brésil ou du Suriname, le bois va être moins cher. Il va nécessairement être moins cher. Mais il faut savoir aussi le dégât qu'on fait dans la forêt, qui est un milieu fragile et qui est un milieu que nous devons respecter et qui est probablement notre plus gros patrimoine. Il ne faut surtout pas ne pas exploiter la forêt. On a besoin de cette forêt. Il faut travailler avec elle, mais il faut la respecter. Il faut la connaître. Il faut la respecter. Si on ne le fait pas ça, la filière bois n'a pas de sens. Hein, si on fait comme pour derrière replanter de l'eucalyptus, enfin, c'est une aberration. Donc il est très important qu'on apprenne et qu'en Guyane, on apprenne aussi à connaître notre forêt le plus possible, que ça passe par le scolaire, par l'université, etc. Mais qu'on sache que c'est notre trésor et que on peut aller se servir dans le trésor, mais il ne faut pas le détruire. Surtout pas le détruire.
Donc on en revient encore à ce qu'on disait au tout début, c'est le coût global. Et dans le coût global, il y a le coût d'aller chercher ces matières premières. Et pour le coup, voilà, si on veut aller les chercher d'une manière durable et pérenne, que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent aller se servir pareil, il faut respecter cette ressource. Après, en ce moment, il y a aussi donc l'interprobois qui est très... qui est en train de se développer, de structurer la filière, mais il y a aussi le travail du CTBF, le Centre Technique du Bois et de la Forêt, qui est en train de caractériser les essences guyanaises. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 1600 essences de bois dans la forêt. Il y en a 80 qu'on connaît à peu près pour la construction. Il y en a 4 qui sont vendues.
C'est ça.
Les autres ne sont pas encore caractérisés. Les essais techniques de durabilité ou de même de tenue structurelle, on ne les connaît pas encore. Donc le CTBF fait du très beau travail avec du coup la main d'œuvre qu'ils ont. On attend encore tous les chiffres pour pouvoir vraiment avoir le panel le plus large de ce que nous propose cette forêt.
Plus nous aurons d'essences disponibles, moins le bois sera cher en Guyane. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de faire baisser ce coût tout en respectant, bien entendu, la ressource telle que je voulais présenter.
Ça, aujourd'hui, ce que nous disait aussi, donc j'ai participé également à la visite, à la deuxième visite de l'Interprobois, c'est que tout le monde veut de l'angélique. Mais il y a d'autres bois qui sont tout aussi intéressants, qui ont les mêmes propriétés. Mais si tout le monde veut de l'angélique, les scieries derrière ne savent pas proposer toujours la même essence. Quand ils trouvent pas que ça dans la forêt, ils trouvent d'autres choses. Donc sinon, ils sont obligés d'aller plus loin, d'aller sur d'autres massifs pour pouvoir... donc là, aujourd'hui, avec Aqua, on va vraiment, et l'Interprobois et le CTBF, développer du coup cette sensibilisation auprès des autres essences qui peuvent être disponibles et qui offrent exactement les mêmes propriétés à l'usage.
Est-ce qu'on a l'expertise, est-ce qu'on en dispose sur le territoire hein, afin de justement pouvoir disposer, construire et puis également est-ce qu'on a la facilité d'acquisition des matériaux? Alors je ne parle pas que du bois, on a parlé de la brique de Guyane, mais on a besoin d'autres éléments aussi pour éviter d'importer.
Alors, on n'évitera pas l'importation totale. Quand on fait de l'aluminium, l'aluminium représente une filière industrielle qui est extrêmement lourde, qui est très consommatrice en énergie, qui demande des investissements très importants. Donc, effectivement, on peut avoir un système de recyclage de l'aluminium qui est en place, qui est lors des réhabilitations, etc. Mais on n'aura très probablement pas avant très longtemps des usines d'aluminium ici. On a des gens qui le préparent, qui le coupent, qui le taillent, c'est déjà ça, des menus alu. Mais on ne pourra pas se passer de cette filière-là d'importation. Donc il y aura toujours des choses qu'on importe, l'acier probablement également, hein, dans la même chose, parce que pareil, ce sont des investissements importants. En revanche, l'idée, c'est de travailler bien sûr avec tous les matériaux. qu'on a à notre disposition. Il ne faut pas faire de sectarisme. Et puis, il y a des matériaux qui vont être plus adaptés. Le béton, par exemple, va être adapté dans certains cas de figure. Et nous passons notre temps à l'agence à choisir un matériau par rapport à un usage. Et on mixe les matériaux les uns avec les autres. Même en étant passionné du bois, on fait très peu de bâtiments 100% bois. Un bâtiment 100% bois est une démarche tout à fait particulière de quelques clients qui sont très en avance ou prêts à jouer le jeu, mais ça demande quand même un certain nombre de contraintes qui fait que ce n'est pas compatible avec la totalité des projets et des programmes. Alors, on est très content que ça existe et d'en faire, mais ça reste des projets qui restent exceptionnels. Donc, le travail avec du béton, avec de la brique, avec du bois, avec parfois du verre hein, quand même malgré tout, et de l'aluminium et de l'acier parfois, hein, est tout à fait nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est de réduire les temps de construction pour réduire aussi les coûts. Donc tout ce qui va s'appeler la filière sèche, c'est-à-dire des constructions où on va utiliser le moins possible de maçonnerie et de béton, vont être des filières qui vont être très intéressantes écologiquement à terme, parce que on préfabrique, on travaille très bien notre projet en atelier, on est indépendant de la saison des pluies aussi, qui est quand même un critère de durée de chantier très important en Guyane, et quand on arrive, on monte le bâtiment comme un Lego, et il va s'assembler, on va pouvoir monter une ossature de bâtiment, le siège de l'établissement public d'aménagement de la Guyane que nous avons fait il y a maintenant 5 ans, en 2016, qui avait été primé, est un bâtiment qui est en partie en ossature métallique et toutes les façades sont en bois de Guyane et les charpentes sont en bois de Guyane également, donc le bâtiment est constitué à peu près à 55% de bois de Guyane et à 20% de métal et le sol de béton et de verre. Donc même si on ne le voit pas forcément, c'est un bâtiment essentiellement un bâtiment en bois, mais on ne pouvait pas mettre le bois partout. Donc voilà, c'est toujours un panachage et c'est aussi l'utilisation de la ressource au bon endroit avec la bonne durabilité aussi. Donc il faut toujours faire ce calcul, et on n'est pas des ayatollahs de tel ou tel matériel. Il faut savoir mettre en place et utiliser, et quand si le béton est meilleur par rapport à la durabilité à tel ou tel endroit, on va utiliser le béton à cet endroit-là. Parce que c'est aussi ça le coût global. Et le coût et la durabilité du bâtiment, c'est aussi de savoir qu'à cet endroit-là, ça ne va pas bouger, il faut mettre ça.
Très beau bâtiment d'ailleurs.
Merci.
Et pour la montée en compétences, du coup, à quoi on participe du coup, à la sensibilisation beaucoup et un petit peu à la formation, à la construction en terre crue, parce qu'effectivement, c'est un matériau qu'on trouve ici en grande quantité. Ils sont en train de revoir en ce moment le schéma des carrières pour justement essayer de développer cette filière-là. Donc on a déjà Brique de Guyane qui propose donc un produit, la brique compressée. Après, il y a énormément de types de construction en terre crue. Donc pour ça, il est intéressant d'essayer de développer du coup des compétences locales vraiment auprès des ouvriers qui apprennent à faire différentes techniques de construction en terre crue qui seraient du coup adaptées donc à la ressource qu'on a encore une fois en grande quantité et au climat auquel ça pourrait vraiment bien se prêter, parce que la terre crue a cette propriété du coup de laisser passer la vapeur d'eau. Du coup, on va vraiment limiter ces effets d'augmentation d'hygrométrie à l'intérieur d'une pièce et ça va la rendre vraiment respirante et agréable.
En termes d'isolation, c'est très intéressant.
Alors, techniquement, on n'appelle pas ça l'isolation. La terre crue n'a pas de pouvoir isolant. Ça va fonctionner par gradient de température. En fait, elle va être accumuler peu de chaleur et la restituer sur une très longue durée. Contrairement au béton qui, lui, va accumuler énormément et la restituer juste le soir quand on va se coucher. Donc, le mur qui irradie la chaleur de l'après-midi, c'est pas très agréable. On est obligé de mettre la clim encore plus fort pour atteindre le confort, c'est ça.
D'accord, donc on peut dire quand même que en termes de main d'œuvre, de ressources humaines, on a les artisans et ils savent faire.
On participe à la formation aussi, c'est-à-dire que évidemment être un petit peu, un pionnier de tel ou tel matériau ou de telle ou telle filière nécessite d'y passer plus de temps, d'être un peu moins rentable dans nos activités chacun, donc quand on a des activités commerciales, à quoi est associatif, donc son vocation est non lucrative, mais effectivement quand on doit faire tourner une boîte et payer ses salariés, ça demande un petit peu un effort de temps en temps de, entre guillemets, perdre du temps, mais pour moi ça n'a jamais été considéré comme tel, de développer la filière. Là, par exemple, on a fait récemment pour une de nos clientes, on est en train de finaliser une maison en briques de terre crue, j'ai profité de cette construction pour prendre beaucoup de photos pour aider la formation, pour le diffuser à mes confrères architectes quand ils ont une question sur la mise en œuvre de ce matériau-là. Voilà, ils savent que voilà, telle personne a fait comme ça et on s'échange les informations.
Une transmission des savoirs.
Qui nous permettent de transmettre les savoirs, et de les échanger. Et quand on fait une bêtise, parce que quand on est dans un nouveau matériau, un nouveau matériau, c'est pas
forcément, il y a des.
On réapprend des modes de faire qui ont été oubliés souvent. Et donc, on se repasse l'info. Attends, fais pas ça parce que tu vas. Ça crée une fissuration, donc il faut le faire autrement, etc. Et donc, on s'améliore sur nos premières opérations. Et puis, maintenant, ça fait quand même presque une dizaine d'années qu'on l'utilise. Hein. Enfin, moi, ma première maison en terre crue, elle date de 2001 déjà. Donc, ça commence à faire. Mais on a des maisons à Kourou qui datent des années 80.
C'est ça. Hein.
Et pareil, ces savoir-faire qui avaient été mis en place, ils ont été oubliés. Alors qu'il y avait eu un gros travail. Donc là, maintenant, ça y est, on a une filière qui s'est développée, qui s'est structurée. Il ne faut surtout pas la perdre et il faut développer et former de plus en plus d'artisans pour qu'ils puissent mettre en œuvre de façon facile et de moins en moins cher. Parce qu'évidemment, la première maison, l'artisan va dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu comme argent ?» Parce qu'il a appris. Donc, il montait 3 mètres carrés par jour, alors qu'une fois qu'il sait faire, il va en monter 20.
Oui, et devenir productif.
Bien sûr.
Et former lui-même à son tour.
Exactement.
On a parlé de revenir aux bases. Hein. L'éco-construction permet de revenir à certaines bases. Et donc, de l'exploitation sans produit. On en parlait notamment dans le cadre de certains meubles, les meubles sans produits, et là c'est la même chose, sans produits chimiques, donc un faible impact sur l'environnement, c'est aussi un faible impact sur la santé.
Bien évidemment, oui, que ce soit le bois comme la terre, ce sont des produits qui ne diffusent pas ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles, qui, on le sait maintenant, il y a des études qui sont vraiment très très nocives pour la santé. Donc effectivement, quand on parle d'éco-construction, c'est vraiment un tout. On parle du coût global, mais on parle aussi du coup de l'impact sur l'environnement et l'impact sur les occupants.
Bien sûr.
Et effectivement, ça c'est très très important.
Il est évident que si vous achetez des meubles en panneaux de particules, c'est pas très bien ni pour votre santé, ni pour forcément l'environnement. C'est que des résines.
Je vous pose cette question, c'est encore une question un petit peu ambiguë. Que manque-t-il d'après vous pour favoriser un boom de l'éco-construction? Est-ce que d'après vous...
Il peut y avoir... Il y a plusieurs réponses qui sont plus ou moins simples. Ça pourrait être des incitations. Ça peut être des exemples aussi, des beaux exemples, des très beaux bâtiments qui donnent envie, qui vendent le rêve, comme on dit. Du coup, ça peut vraiment... donc ça peut être avec la piscine, quelque chose. Enfin, ça peut être très, très luxueux. Mais ça peut être aussi... justement, pour moi, le bâtiment de l'EPFA est un exemple. Il donne envie, ce bâtiment, avec les magnifiques colonnes devant. C'est vraiment des incitations. Après, ça pourrait passer par des mesures politiques avec des aides financières sur les filières locales. Ça peut être une taxation des produits à fort impact environnemental.
Il y a pas mal de sujets, mais moi, je suis assez optimiste. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que cette explosion, elle est en train d'arriver.
Timide.
Elle est timide, mais de moins en moins.
Elle commence.
Vous regardez déjà les bâtiments, dans le cas... Vous savez, il y a toujours... Il faut toujours partir d'un modèle, il faut toujours partir aussi de quelque chose qu'on a déjà vu. Quand on n'a jamais vu, on ne sait pas. Et en fait, là, il commence à y avoir un certain nombre de projets. Et il faut savoir, là encore, je reviens toujours là-dessus, il faut être assez fier d'être Guyanais. On est très en avance. En Guyane, on est bien plus en avance que les Antilles, par exemple, sur l'éco-construction. On a un nombre d'agences avec beaucoup de talents, d'agences d'architecture avec beaucoup de talents, une concentration des talents et des savoirs. On a Aqua qui est unique, unique dans tous les territoires français et y compris dans les territoires étrangers. C'est-à-dire qu'une association comme ça, c'est un petit peu un miracle avec des gens de la construction qui se sont associés, puisqu'au début c'était une association avec des architectes des bureaux d'études de Guyane qui ont décidé dans les débuts des années 2000 de monter cette association pour dire stop à certaines aberrations. Et c'était dans les aberrations, il y avait le fait qu'on n'isolait pas les maisons, il y avait le fait qu'on climatisait de nombreux commerces la porte ouverte, il y avait le fait qu'il y avait des choses comme ça qui étaient des folies. Et tout ça est en train de changer, mais assez vite finalement. Et pendant 15 ans de combat, il ne s'est pas passé grand-chose. Et depuis 5 ans, il y a une accélération. Et donc, moi, je suis quand même très optimiste parce que je pense que le plus dur, il est derrière nous. Et maintenant, évidemment qu'il y a encore des aberrations qui se font, bien entendu. Mais de plus en plus, les gens se rendent compte que c'est une aberration beaucoup plus vite. Et donc, je pense qu'on a, on va aller vers un mieux. Et beaucoup de bâtiments publics sont aujourd'hui assez exemplaires. Et ils montrent l'exemple. Donc, le fait d'avoir ces bâtiments comme exemple, les gens s'y réfèrent, commencent à dire, bah oui, pour ma maison, bah, je pourrais peut-être utiliser cette logique ou cette logique. Quelqu'un qui va être bien, un enseignant qui va être bien dans son groupe scolaire, qui a été construit de façon... aujourd'hui, les groupes scolaires sont, pour la plupart, maintenant, tous les ceux des 10 dernières années sont pour la plupart très bien faits. Et les gens s'y sentent bien. Alors, évidemment, quand on voit que sans clim, on arrive à être bien pour telle ou telle raison, etc., alors qu'on a 20 élèves ou 25 élèves devant, que c'est des bouillottes chacun, bah, on se dit, bah, ça marche. Et donc, ça veut dire qu'on peut recroire à nouveau à un système qui est, on n'est pas obligé de mettre la clim systématiquement pour être bien chez soi. Donc, c'est un cercle vertueux qui, pour moi, est enclenché. Ça va mettre quelques temps, hein, mais c'est bien enclenché. Moi, je suis un optimiste.
Et pour continuer, du coup, plus les maîtres d'ouvrage public demandent, ajoutent ces conditions à leur programme, plus les entreprises vont devoir développer du coup les filières, les techniques, monter en compétences. Et après, du coup, c'est le domaine privé, du coup, la construction de logements, qui bénéficiera du coup de cette montée en compétences. Donc effectivement, grâce à ces bâtiments exemplaires qui sont aujourd'hui construits et qu'on constate du coup à l'usage que ça fonctionne très bien, on est vraiment sur cette dynamique vertueuse ici en Guyane.
Je vous pose une dernière question. Alors, comme Laurent est optimiste, il n'aura pas énormément de choses à dire, donc il sera dans une continuité. Je pense sûrement que Cécilia aussi. Si vous aviez une baguette magique, donc c'est la dernière question, hein, c'est un peu le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, si vous étiez Harry Potter, Hermione, qu'auriez-vous fait avec cette baguette magique dans vos domaines respectifs, bien sûr? Ah là là, c'est la colle.
J'ai une petite idée. Vous savez, quand on fait l'acte de construire, il est fait par trois grands pôles. Il faut un maître d'ouvrage, un client, celui qui va décider de construire et qui va financer la construction. Il faut un maître d'œuvre, un architecte, et il faut ensuite un utilisateur. Bien, et ben, je voudrais que tous les maîtres d'ouvrage, donc ceux qui vont construire, je voudrais qu'ils soient dès aujourd'hui sensibilisés à ces questions de coût global et qu'ils comprennent en fait c'est en investissant peut-être un peu plus au début qu'ils vont faire beaucoup d'économies à la fin. Et si cette notion elle passe, mais ça va changer tellement de choses, et à la fin il y aura vraiment plus des économies et du confort en plus pour tout le monde.
La baguette magique, c'est sur les maîtres d'ouvrage.
Digne.
Ok. Bah, la mienne, du coup, elle sera sur les usagers. Parce qu'on est beaucoup sur le comportement usager, on le sait en conception climatique, on le dit. Un bâtiment passif nécessite un usager actif. Et pour ça, on a beaucoup d'éco-gestes qui sont de plus en plus vraiment dans les mœurs. Hein. Éteindre la lumière d'une pièce quand on la quitte, laisser les portes et les fenêtres fermées quand on climatise. Voilà, toutes ces petites actions, si tout le monde pouvait les acquérir et les comprendre au plus vite, on gagnerait beaucoup d'énergie, on arrêterait de la gaspiller. Parce que c'est vrai qu'on en a peu parlé pour le coup ce soir, mais le gaspillage énergétique y est pour beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'ici en Guyane, le coût de production de l'électricité est 5 fois supérieur aux techniques qui sont utilisées en métropole. De par la péréquation d'EDF, on le paye le même prix. Mais il faut savoir qu'en vrai, ça coûte énormément d'argent. Donc déjà l'aspect économique, mais aussi écologique. Les modes de production ici ont franchement de la marge en amélioration. Hein, on va le dire comme ça. Mais voilà, donc c'est si les usagers, que ce soit à la maison comme au travail, si on pouvait tous agir en conscience qu'on utilise l'électricité, tout le monde y gagnerait.
Chers experts, je vous remercie hein, pour ce moment qui fut vraiment un moment de plaisir. Merci pour votre expertise qui fut fine. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine et n'oubliez pas surtout d'adopter les bons gestes et de regarder de nouveau ce live Facebook sur la page de Mayuri Campus ou via les liens de l'ensemble de nos réseaux. À bientôt.